pour investir, le coffre-fort.
Elle était bien ma vanne débile. Hein. Wendy Souvanarat.
Bonjour Antoine.
Alexandre Leng de Carré Partners dans un plateau triangulaire, voilà.
C'était donc ça.
Ok, passons à autre chose. On va parler, avec vous, spécialiste du private equity, spécialiste de la tech. La question qui nous a le plus passionné là ces dernières semaines dans Tout pour investir, c'est la question du cloud et de l'IA, donc ce boom phénoménal qui nous amène à des considérations de souveraineté. Et je ne me lasse pas de citer cet exemple de l'Allemagne qui, mais sans même scier d'un millimètre, nous a sorti il y a quelques mois, oui, on va construire notre cloud souverain avec Amazon. Génial.
Superbe. Oui, voilà le acteur international. Le donc.
Et donc, du coup, bah non, nos administrations françaises, elles ont un petit peu plus de jugeotes, with all due respect, pour nos amis allemands qui nous écoutent peut-être. Mais voilà, on va choisir un acteur, alors peut-être de petite taille, mais qui fait le job, qui sait bien faire. Et on a vraiment, on semble avoir une prise de conscience qui est salutaire, qui est peut-être un tout petit peu tardive, mais au moins qu'il nous faut du souverain et des données qui restent chez nous.
Ouais, absolument. Et je pense que vous faites bien de le rappeler, Antoine. Si on se rappelle rapidement cette saga du 12 juin qui démarre avec d'un coup Anthropie qui se met à arrêter brutalement et soudainement Mythos et Fables. Alors, est-ce qu'on était sur effectivement cette faille de sécurité et où ce petit signal géopolitique, ouais. Ce qui est certain, vous l'avez dit, c'est qu'effectivement on a eu ce sujet de la souveraineté qui est né. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché français, et vous avez raison, cette prise de conscience, elle est nécessaire, même si potentiellement un peu tardive, c'est qu'on a deux acteurs finalement qui émergent. Le premier, on le connaît tous, c'est Mistral AI. On est sur notre champion de l'IA générative en France, qui est valorisé 11,7 milliards en septembre 2025 et qui nous parle d'un tour pour une levée de 3 milliards et une valorisation cible de 20 milliards. Bon, on va les suivre. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est une boîte qui est assez récente, qui est née en 2023, qui n'est évidemment pas encore rentable et qui est bien loin des champions américains sur lesquels on viendra, mais qui sont évidemment à des années-lumière. Mmh. À côté de ça, on a eu une annonce assez intéressante à Vivatech, d'OVH, notre fameux champion européen, pour le coup, sur le cloud, hein, donc l'hébergement un peu plus global.
Au qui nous a annoncé là-bas, qu'on salue.
Ouais, exactement.
Vous écoute régulièrement.
Ouais. Exactement. Et qui nous a annoncé donc quelque chose assez important, puisque se lancer dans la course de l'IA. Ouais. Comment? Et notamment via des acquisitions. Eh bien, sur le chiffrement des données, sur des modèles de LLM, sur des IA vocales. Mmh, mmh. Alors, on se rappelle, OVH, c'est 1999. Donc, à côté de la start-up un peu naissante de Mistral, on a un acteur établi, peut-être plutôt même une ETI industrielle en réalité, qui est déjà rentable, qui génère 1 milliard de revenus et qui, au final, a quand même finalement un beau potentiel devant lui pour peut-être se démarquer aussi avec Mistral. Maintenant, et là, vous l'avez justement dit, est-ce à temps? Est-ce tardif?
Ouais.
J'aurais quand même rappelé que, en parallèle de ces valorisations, hein, parce que typiquement, OVH, c'est 2,5 milliards.
Ouais.
On se l'est dit, Mistral autour de 11,7 en l'occurrence. Mmh. À côté de ça, on a des valorisations US de 965 milliards sur Anthropic. Bon, les arbres ne montent pas juste au ciel aux États-Unis, parfois un peu quand même.
Maintenant, non, mais c'est une question intéressante parce qu'on se la pose aussi sur BFM Bourse, etc. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 1000 milliards de dollars de capitalisation pour être quelqu'un sur ce monde de l'IA et de la tech. Je prenais comme exemple ASML qui en est pas tout à fait loin de ce seuil symbolique. Ben oui, parce que malgré tout, il y a un phénomène de plafond de verre, Alexandre Leng, et qui gêne ces acteurs pour trouver la rentabilité, pour trouver la bonne marche de leur business. Et en gros, c'est ça finalement le problème.
On a ce phénomène de plafond de verre, hein, il gêne pour attirer des capitaux étrangers, notamment, et de manière massive. Mmh. Aujourd'hui, moi j'aime bien faire cette analogie avec l'immobilier, parce que bon, tout le monde comprend. Vous pouvez avoir la plus belle maison du monde, par exemple à Lacano, si je prends le sud-ouest d'où nous arrivons. Vous la mettez, si vous êtes dans cette zone-là, hein, elle va difficilement dépasser les 2 millions d'euros.
Ouais.
Ok. Vous mettez la même au Cap Ferret, là, elle peut monter à plus de 10 millions d'euros. Et puis là, pareil. Voilà. Si on est à Paris, il y a une grosse différence entre avoir un appart de 150 mètres carrés dans n'importe quel arrondissement, hein, dans le 18e, le 20e, et puis en avoir un qui a la vue sur la Tour Eiffel. Si la vue sur la Tour Eiffel, d'un coup, les prix par mètre carré moyen, on en sort, on est capable d'en sortir. Ouais. Et c'est exactement le même phénomène aux US. En fait, c'est un sujet d'offre et de demande. Comme tout le monde souhaite investir aux États-Unis, naturellement, en fait, on a des valos qui explosent. Et puis après, ça fait un cercle, une sorte de cercle vertueux pour les boîtes américaines. Comme les valos peuvent exploser, naturellement, les investisseurs veulent investir parce qu'ils vont réussir à avoir des croissances de des valorisations, qu'on soit sur les marchés cotés ou non cotés, qui peuvent être de l'ordre de x2, x3, x5, même annuellement parfois. Et on le voit avec des Anthropic, d'OpenAI et toutes ces boîtes pré-IPO, ces licornes tech américaines. Là où à modèle opérationnel, à qualité opérationnelle équivalente, je pense à nos licornes françaises, des Doctolib, des Alan, et autres qui ont vraiment, des superbes boîtes, hein, à la fois en termes de revenus, de services, de produits. Eh bien, on a des valorisations qui stagnent. Ça reste à 5 milliards, 6 milliards. On dépasse très difficilement en Europe les 20-30 milliards de valo, que ce soit sur les marchés cotés ou non cotés.
Donc, effectivement, ce phénomène de plafond de verre. Wendy, juste, on a parlé d'Alan, on a parlé de Doctolib. Ces deux boîtes sont signataires d'un truc là qui est sorti assez récemment, disant « Ouais, mais il y en a marre de ces histoires de souveraineté, laissez-nous choisir nos modèles d'IA qu'on veut et notre cloud qu'on veut. » Puis Doctolib, dont on se sert tous les jours. On a juste envie de leur dire, vous avez juste compris le monde dans lequel on vit ou bien?
Et c'est tout le sujet, je pense que c'est tout le sujet. C'est le sujet de la France, mais en réalité c'est aussi le sujet de l'Europe. Aujourd'hui, Alexandre l'a dit, 70% du cloud souverain européen est dans les mains des Américains. Donc à un moment donné, AWS, Google, Microsoft, c'est le monde dans lequel on vit. Donc on peut décider effectivement de vivre un petit peu dans notre caverne ou alors quand même effectivement s'ouvrir au monde parce qu'aujourd'hui c'est la réalité du marché.
Et puis en termes d'investissement, on a un OVH qui gagne un marché à 300 millions, un peu moins de 300 millions. Et puis à côté de ça, on a Amazon qui annonce que pour le cloud souverain européen, vont investir 7,8 milliards. Voilà.
Et CQFD.
plafond de verre, taille critique. Non, mais on est d'accord et vous avez vraiment défriché le sujet. Juste un truc, est-ce qu'on pourrait revenir sur les grosses licornes du moment? C'est vrai qu'on s'est vu il n'y a pas très longtemps, on disait, tiens, c'est marrant, le mot licorne est complètement sorti du scope. Ben non, il y en a et elles nous intéressent. Alors c'est vrai qu'il y a Doctolib, il y a Alan dont vous avez parlé, on en a beaucoup parlé aussi. C'est vrai que c'est une super innovation. Il y a Revolut aussi, bon, qui n'est même plus une licorne, ça c'est carrément...
Revolut qui effectivement sur l'Europe, alors c'est pas l'Union Européenne, qui est celle qui se détache et qui effectivement arrive à passer les 100 milliards de valo. C'est vraiment l'exception chez nous.
Et là, en France, qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui commence à avoir des valorisations intéressantes?
On a PennyLane qui continue de croître très fortement, qui s'impose chez tous les experts comptables, qui avec la facturation électronique continue encore sa percée.
Je rigole, excusez-moi, j'ai leur jingle dans la tête, on le passe toute la journée.
Bref. Effectivement, et qui attire des investisseurs étrangers qui lui permettent justement d'accélérer cette croissance et de payer les jingles.
Parce que
c'est important aussi.
Non, mais ça coûte des sous. Et puis on voit des licornes, alors dans tout autre sujet, mais qui leur principal budget, c'est quand même le marketing plus que.
Non, et puis après on a des belles innovations en France. On a quand même des boîtes dans la quantique. On a des Alice et Bob. On en a d'autres qui des Pascal qui effectivement se détachent, arrivent à attirer des capitaux aussi. Alors on n'est pas encore sur les ordres de grandeur américains parce qu'en équivalent américain, on a des PsiQuantum qui sont sur encore un autre niveau, mais qui si on compare les technologies, sont pas si loin. Et c'est ça que je pense qui est intéressant, mais qui est dommage, c'est que on a des talents, on a de belles boîtes, mais bon, on a un environnement aussi peut-être politique, et de taxes et autres qui nous limitent quand même, qui limitent les entreprises françaises dans leur capacité à attirer des capitaux étrangers.
Et puis aussi, ce sera le mot de la fin, et puis ça constitue quand même votre menu du jour de vos longues journées, c'est toujours gérer ce stade qui est toujours compliqué entre le late stage.
Exactement.
Donc le plongeoir et la bourse au bout.
Exactement.
Et ça, c'est un phénomène très complexe, surtout dans le contexte actuel de marché et les valorisations.
Ah, tout à fait. Aujourd'hui, la bourse est devenue... Alors avant, je pense que c'était la ligne d'arrivée. Maintenant, effectivement, c'est un peu la ligne parfois de débat. En fait, non, exactement. Maintenant, on sait que le marché, effectivement, s'est reconstitué, qu'une grande partie de la création de valeur se fait avant l'introduction en bourse. Et c'est vrai que nos champions français, on a quand même envie de les souvenir parce qu'on reste patriote et on a envie d'accélérer et d'aller beaucoup plus vite. Maintenant, la réalité américaine est encore très avancée sur le sujet. Les capitaux mondiaux sont très présents transatlantiques, mais on continue de soutenir nos champions.
Ça aussi, c'est un enjeu de souveraineté. On en reparlera la prochaine fois. À chaque fois, c'est trop court. Merci infiniment d'être venu.
Merci beaucoup, Antoine.
Wendy Souvanarat et Alexandre Leng de Carré Partners.